Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre fourmilière pour cette émission du vendredi 14 août. On compte 200 espèces de fourmis en France environ et 11 000 en tout sur Terre. Les étudier bien sûr émerveillent les scientifiques, mais peut aussi nous rendre bien des services à nous les êtres humains. Figurez-vous que les fourmis ont réglé les problèmes d'embouteillage et elles peuvent nous apprendre beaucoup de choses dans ce domaine. Mon invitée est une jeune chercheuse qui vient de Toulouse spécialement pour vous. Bonjour Audrey Dussutour.
Bonjour à tous.
Vous êtes chercheuse, Audrey Dussutour, au Centre de recherche sur la cognition animale de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Deux sujets vous occupent particulièrement, le trafic chez les fourmis et la nutrition chez les fourmis. Ensuite, avec les archives de l'INA, Florence D'Artois nous mettra au congélateur cet après-midi puisqu'il sera question de cryogénisation. On pensait il y a 30 ans qu'il y avait une vie après le frigo. Eh bien, on verra ça dans une demi-heure environ. Hervé Tisse nous parlera, lui, non pas du sel, mais des différents sels. Et vous n'achèterez probablement plus de sel de l'Himalaya après cette chronique. Quant à Pascal Pic, le paléo-anthropologue du Collège de France, il nous explique quelles sont les différences entre l'homme et le chimpanzé. Elles sont infimes. Les généticiens et les paléo-anthropologues ne sont d'ailleurs pas forcément tous d'accord. Et Pascal Pic nous rappelle, pour commencer cette chronique dans le cadre de son grand roman de l'évolution qu'il nous propose cet été, il nous rappelle que l'homme ne descend pas du singe. L'homme ne descend pas du singe. Finalement, on est cousins.
Mais bien sûr, il va falloir arrêter avec cette expression un peu stupide. Hein. Nous sommes des singes ou des simiens depuis peut-être 40 millions d'années depuis Ida. Nous sommes des hominoïdes depuis 25 millions d'années avec Proconsul et Morotopithecus. Et nous sommes des hominidés, c'est-à-dire la famille de l'homme avec les chimpanzés, depuis 6-7 millions d'années. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les chimpanzés d'aujourd'hui ne sont pas nos descendants. Ils sont les plus proches de nous dans la nature actuelle. Ce qui veut dire qu'ils sont nos frères d'évolution et que nous avons un dernier ancêtre commun. Question maintenant, qui est-il? Aurorine, Toumaï ou Ardipithecus? Donc la discussion est surtout entre Toumaï et Aurorine. Et là, j'exprime un point de désaccord souvent avec mes collègues paléanthropologues, pas pour le plaisir d'être original, mais simplement parce que je trouve, et votre question est tout à fait pertinente, qu'on reste encore dans cette idée que le chimpanzé n'est pas notre ancêtre, ça personne ne le dit, mais qui donne une image de l'ancêtre. D'où l'idée que la bipédie, comme on dit, est le caractère de notre lignée. Eh bien, moi, je ne le crois pas du tout, puisqu'en définitive, on a longtemps conçu les origines de la lignée humaine en ignorant les chimpanzés. Or, aujourd'hui, les chimpanzés, ou les bonobos notamment, ils marchent debout dans différentes circonstances, ils utilisent des outils, ils ont les mêmes systèmes sociaux que nous, ils peuvent avoir de petites canines. Bref, marcher debout n'est certainement pas un caractère exclusif de la lignée humaine. Ça expliquerait pourquoi on le retrouve partout. Par contre, ce qui est vrai, c'est que nous l'avons beaucoup développé. Et plus fort, peut-être que les chimpanzés, eux, l'auraient perdu, et aussi les gorilles. Donc il nous faut complètement changer cette perspective dans la compréhension des caractères qui vont faire la lignée humaine par rapport à celle des chimpanzés.
Finalement, pour en revenir à ce plus vieil ancêtre commun entre l'homme et le chimpanzé, il faut qu'il y ait un dialogue entre des généticiens et des paléo-anthropologues.
Alors oui, alors les généticiens ne sont pas tout à fait d'accord avec les paléo-anthropologues parce que vous savez fort bien que nous avons très peu de différences en termes de génétique. C'est les fameux 1%, mais c'est encore mieux que ça. Hein, une des surprises du séquençage du génome, c'est que nous avons très peu de gènes, 25 000, et on a certainement les mêmes avec les chimpanzés. Donc là, on rentre dans un nouveau domaine sur l'évolution du génome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le gène de la bipédie, du langage, etc., comme ça peut être dit, c'est complètement stupide. En fait, ce n'est pas les gènes, mais c'est la manière dont les gènes s'expriment qui va faire qu'on va devenir des hommes, et les chimpanzés des chimpanzés. Or, nous sommes tellement proches génétiquement que les généticiens nous disent que notre lignée à nous, les hommes, se sépare de celle des chimpanzés vers 5-6 millions d'années. Or, Toumaï et Aurorine sont à 6-7-8 millions d'années. Donc il y a un désaccord entre les paléontologues et les généticiens. Et je vous dis, au fond de ma pensée, je pense que les généticiens ont raison parce que, en effet, nous, les paléanthropologues, nous sommes encore trop ignorants de ce que sont ces grands singes.
Et donc Toumaï, pour en revenir à Toumaï.
Ah, si Toumaï était avant le dernier ancêtre commun, en ce qui me concerne, ça ne me troublerait pas tutou, il serait tout aussi important, bien évidemment.
La suite avec Pascal Pic, lundi, évidemment. Je suis avec Audrey Dussutour, spécialiste des fourmis, chercheuse CNRS à l'université Paul Sabatier à Toulouse. Audrey Dussutour, on écoutait Pascal Pic, vous écoutiez avec beaucoup d'intérêt cette chronique. Est-ce qu'il y avait des fourmis à l'époque de Toumaï, il y a 7 millions d'années ?
Oui, il y en avait de nombreuses, puisque les fourmis sont sur la surface de la Terre depuis au moins 100 millions d'années. Donc, les plus vieilles sont australiennes. Et elles ressemblaient vraiment aux espèces qu'on trouve actuellement. Elles ne sont pas beaucoup évoluées.
C'est-à-dire qu'elles avaient déjà ce corps qu'on leur connaît. Alors, on peut peut-être donner quelques généralités sur les fourmis. Pour commencer, le squelette des fourmis est à l'extérieur.
Oui, c'est ça. Les fourmis, à la différence de tous les mammifères, par exemple, ont un exosquelette, comme la plupart des insectes. Oui. C'est-à-dire que le squelette est à l'extérieur. Elles ont une structure sociale. Donc, c'est une des seules espèces d'insectes où on retrouve la société à tous les niveaux. C'est-à-dire que ce n'est pas comme les abeilles, où seules certaines espèces vont être sociales.
Chez les abeilles, on peut trouver des abeilles solitaires. Voilà. Il n'y a pas de fourmis solitaires.
Il n'y a pas de fourmis solitaires.
On peut trouver de grandes fourmilières avec plus que 100 reines.
Oui.
Dans un nid.
Voilà, les fourmis d'Argentine, par exemple, qui sont une espèce invasive, vont avoir beaucoup de nombreuses reines. On peut avoir des fourmis qui sont des colonies de fourmis très populeuses, comme les fourmis légionnaires africaines, où il y a plus de 20 millions d'individus dans une colonie. Mais on a aussi des colonies de fourmis de 30 individus.
Audrey Dussutour, quelle est votre fourmi préférée ?
Ma fourmi préférée, ce serait la fourmi champignoniste, aussi connue comme la fourmi coupeuse de feuilles. Ce sont des fourmis donc, qui viennent d'Amérique du Sud et qui coupent des morceaux de feuilles sur les arbres pour nourrir un champignon qu'elles mangent après coup. Puisqu'elles ne savent pas digérer la cellulose, elles utilisent le champignon pour digérer la cellulose.
Mais mieux que ça, elles élèvent le champignon.
Elles élèvent le champignon, en effet, lorsque, par exemple, il va y avoir une nouvelle formation de colonie, donc l'émergence des reines. Chaque reine va prendre un petit bout de champignon avec elle pour former une nouvelle colonie.
Et dans ces nids de fourmis, donc les fourmis coupeuses de feuilles, on peut trouver des individus qui ont des tailles très différentes, selon le travail qu'elles ont à faire.
C'est ça, donc chez les fourmis coupeuses de feuilles, c'est un bon exemple de ce qu'on appelle, nous, le polymorphisme, c'est-à-dire de nombreuses tailles. Par exemple, chez la fourmi champignoniste, ça va aller de 2 à 3 mm, ce qu'on appelle les jardiniers qui s'occupent du champignon, jusqu'à 3 cm, ce seront les soldats, qui vont vraiment en plus être morphologiquement très différents.
Mais ce sont les mêmes fourmis.
Ce sont des sœurs.
Oui. Donc, et alors, celles qui élèvent le champignon, les jardinières, quel est leur travail exactement ?
Alors, elles vont récupérer le fragment de feuille va être ramené au nid par les fourrageurs, il va être découpé en petits morceaux par d'autres ouvrières. Les jardiniers vont prendre ces petits morceaux et les intégrer au champignon.
Et ces coupeuses de feuilles vivent où ?
De Amérique centrale et Amérique du Sud.
Et dans votre laboratoire ?
Non, je n'en ai pas. Donc j'ai dû aller aux États-Unis pour travailler dessus. Dans notre laboratoire, on a des fourmis qui viennent de Guyane, on a des fourmis qui viennent du Mexique, forcément de nombreuses fourmis françaises aussi.
Alors il paraît que les fourmis sont menacées par les fourmis d'Argentine, c'est vrai ?
Disons qu'on a depuis quelques dizaines d'années une invasion de fourmis d'Argentine en France, puisqu'on a une colonie qui va de l'Italie jusqu'à l'Espagne, donc de la côte basque jusqu'à l'Italie. Et ces espèces sont vraiment un danger pour nos espèces à nous, puisqu'elles utilisent leur territoire.
Oui, et je sais que ça vous fait mal et vous m'avez dit « Oh non, nos fourmis sont menacées, il y a des fourmis d'Argentine, on ne sait pas comment s'en débarrasser et partout où elles passent, elles menacent l'existence des autres. »
C'est ça, puisqu'on les retrouve aussi en Australie. Pour avoir travaillé en Australie, j'ai retrouvé les fourmis d'Argentine. Et là, c'est vraiment en Australie une invasion qui est encore plus pointue qu'en France, puisque vraiment il y a eu des études qui ont vraiment montré qu'elles repoussaient certaines espèces australiennes.
Et ces fourmis d'Argentine, on les reconnaît à quoi ? Par rapport aux fourmis des jardins ?
Elles sont un tout petit peu plus petites, elles sont brunes, mais elles n'ont vraiment rien de particulier quand on les regarde. Elles sont par exemple pas polymorphiques, il n'y a pas des soldats. Leur succès est dû au fait qu'elles ont de nombreuses reines et surtout qu'il n'y a aucun conflit entre deux colonies. Elles ont la même odeur, donc elles sont toutes copines.
Donc pas de bagarre entre deux fourmilières.
Non, pas du tout. Et si vous preniez une fourmi en Italie et que vous la mettiez face à une fourmi en Espagne, elle serait très copine.
Et au Japon, tout pareil.
Au Japon, tout pareil.
Vous vous intéressez plus particulièrement à la nutrition et au trafic chez les fourmis. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre, Audrey Dussutour ?
Alors, en ce qui concerne le trafic, c'était je voulais savoir comment les fourmis régulaient leurs problèmes de trafic, donc d'embouteillage, en pensant qu'il y aurait des embouteillages chez les fourmis. Donc,
parce que, je vous interromps, un nid peut contenir jusqu'à combien de fourmis ?
Alors, selon l'espèce, jusqu'à 20 millions de fourmis. Par exemple, les fourmis légionnaires vont avoir 20 millions de fourmis. Elles vont se déplacer sur des pistes. Donc, si j'explique le système de pistes chimiques, c'est-à-dire qu'il y a une fourmi, une fourrageuse, qu'on appelle, qui sont des fourmis qui vont chercher de la nourriture. Elle va partir à l'extérieur, elle va explorer, trouver une source de nourriture et revenir au nid en laissant une trace chimique sur le sol pour pouvoir communiquer sa découverte à ses congénères.
Et là, tout le monde se précipite.
Les congénères sentent la piste, c'est un signal qui va les exciter, et elles vont suivre la piste, trouver la source de nourriture et renforcer cette piste au retour. Et donc, un système amplification se met en un effet boule de neige, et on a un gros trafic entre la source de nourriture et le nid.
Et jamais d'embouteillage.
Et c'est justement ce que nous avons tenté de découvrir, s'il y avait des embouteillages, et non.
Et il n'y a pas d'embouteillage. Pourquoi, Audrey Dussutour ? Mais je vous laisse 1 minute 30 pour réfléchir. Écoutez ce qui passait à la radio en 1967, The Box Tops. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Ah, oh, c'était bon ça.
Oui, c'était très bien.
Vous voyez, ça donne envie de danser. Audrey Dussutour, nous sommes avec vous sur la piste des fourmis. Vous nous avez expliqué il y a un instant que certains nids de fourmis peuvent contenir jusqu'à 20 millions de fourmis et qu'il n'y a jamais d'embouteillage chez les fourmis. Comment font-elles ?
Alors, elles ont plusieurs solutions pour cela. Donc, si, par exemple, elles ont une piste qui est très large, elles vont s'organiser spatialement, plus ou moins un peu comme des voitures. Elles vont former des lignes de déplacement avec les fourmis qui ramènent la nourriture, qui vont occuper le centre de la piste, et les fourmis qui vont à la nourriture, les côtés. Donc déjà, ça évite les interactions qui sont à l'origine des ralentissements.
Donc, comme les autoroutes ?
Un petit peu, oui.
Oui.
Et si, par exemple, cette fois, on réduit la largeur du chemin, donc elles ne peuvent plus s'organiser spatialement, on va observer une organisation temporelle. C'est-à-dire qu'on va avoir des petits trains de fourmis qui vont dans des directions différentes, s'alterner de manière temporelle, pour éviter de se rencontrer au milieu de la piste.
Mais comment font-elles ?
Est-ce
qu'on le sait ?
Oui. Alors, c'est vrai que beaucoup de gens penseraient qu'il y aurait quelque chose, un plan à l'origine, des règles préétablies. Et non, en fait, les fourmis réagissent au niveau local. Donc, par exemple, une fourmi qui est chargée de nourriture, lorsqu'elle rencontre une fourmi qui est non chargée, c'est pas elle qui va se pousser sur le côté, c'est toujours la fourmi qui n'a pas chargé de nourriture qui va se décaler. Pourquoi ? Pas parce que c'est une espèce de loi chez les fourmis, parce que la fourmi
chargée... C'est logique d'ailleurs.
Oui, ce serait logique, mais c'est surtout aussi parce que la fourmi qui est chargée ne peut pas bouger vraiment très vite. Donc forcément, l'autre va bouger plus vite et l'éviter. Donc ça, c'est en fait, on a observé des petites règles comme ça qui permettent de réguler le trafic.
Elles peuvent porter des charges qui sont combien de fois plus lourdes qu'elles ?
Oh, 10 à 20 fois plus lourdes qu'elles, facilement. Que ce soit des proies ou que ce soit des morceaux de feuilles ou des graines, souvent, c'est 10 fois le poids de la fourmi.
Alors continuons avec ce trafic et expliquez-nous avec qui vous partagez votre bureau au laboratoire de l'université Paul Sabatier à Toulouse.
Alors mon collègue de travail s'appelle Mehdi Moussaïd et il lui travaille sur les piétons. Et donc, Mehdi et moi, nous faisons des expériences très similaires, puisqu'il utilise le même type de dispositifs expérimentaux, sauf adapté à l'humain.
C'est assez étonnant. Donc, vos découvertes peuvent l'aider ?
Oui, ça peut inspirer, par exemple, des dispositifs expérimentaux. Et on trouve souvent des comportements assez similaires.
Ah oui ?
Donc, les règles qui sont à l'origine de ces comportements ne sont peut-être pas forcément identiques, mais au niveau collectif, le pattern de ligne ou d'organisation temporelle, on le retrouve parfaitement chez l'homme.
Je suis sûre qu'elles se débrouillent mieux que les humains, les fourmis.
Les humains en voiture, en effet, ne sont pas très doués. Mais les humains à pied se débrouillent plutôt pas mal. Si on regarde dans les couloirs de métro, par exemple, ça circule très bien.
C'est ce que vous avez constaté tout à l'heure, mais on est au mois d'août à Paris.
C'est vrai. Mais c'est un système qui est plus auto-organisé. Il n'y a pas de règles quand on se déplace dans une rue. Par contre, quand on se déplace en voiture, il y a des règles.
Donc, vous observez les fourmis, vous regardez ce qu'elles font et ensuite, vous faites appel à des mathématiciens et à des physiciens pour modéliser tout ça.
Oui. En effet, la première chose que l'on fait, on monte un dispositif expérimental et on regarde ce qui se passe au niveau collectif. Qu'est-ce que fait la colonie ? Par exemple, si on propose deux chemins à une colonie, on va voir qu'elle sélectionne un chemin. Donc après, on va se dire quels sont les mécanismes, quels sont les comportements à l'origine de cela. Donc on va avoir des hypothèses. Le problème, c'est que de faire le lien entre notre hypothèse au niveau individuel et le niveau collectif, on a besoin de passer par la modélisation. Et donc, moi, je travaille en collaboration avec des mathématiciens qui vont m'aider à construire ces modèles.
Et donc, qui mettent sous forme d'équations.
Exactement.
Les déplacements des
fourmis. Ce qu'on appelle
des
algorithmes fourmis.
Oui. Elles se déplacent toutes de la même façon, les fourmis, quelle que soit leur espèce ?
Pas tout à fait, mais il y a beaucoup de parallèles. Par exemple, moi, j'ai travaillé sur deux espèces, les fourmis champignonistes et la petite fourmi des jardins.
Oui.
Et donc, on retrouve par l'organisation temporelle, on la retrouve chez deux espèces. Par contre, les règles qui en sont à l'origine ne sont pas forcément les mêmes.
Vous les écrasez toujours, les fourmis ? Non, depuis j'évite. Que vous travaillez sur les fourmis ?
Non, j'évite de les écraser.
Donc, vous êtes fascinée par ce petit animal ?
Oui, je trouve que c'est vraiment fascinant. On peut passer des heures à regarder une colonie de fourmis sans s'ennuyer parce qu'elles font toujours quelque chose.
Oui, on a l'impression en plus qu'elles font des choses incroyables. On les voit grimper, on a presque envie de les aider parfois.
Non, voilà, on les voit fourrager toute la journée. Elles sont toujours, c'est vrai qu'on a toujours l'impression de la fourmi qui travaille, comme dans la fable de La Fontaine, c'est un peu ça. Les fourmis sont toujours en train de forager, de faire des réserves, de construire. Elles sont vraiment tout le temps occupées.
Donc, elles font des réserves pour se nourrir. Oui. Et c'est très, très bien organisé chez les fourmis, la nourriture.
C'est très bien organisé. En fait, dans une colonie de fourmis, donc on a la plupart du temps, en moyenne, 10% des fourmis qui sont impliquées dans le fourragement, donc c'est-à-dire la récolte de nourriture. Donc, ces 10% de fourmis doivent nourrir tout le reste de la colonie.
Mais que font les autres ?
Les autres ne sortent pas. Les autres vont s'occuper du couvain, elles vont agir, elles vont faire par exemple la construction du nid,
oui.
La défense. Il y en a aussi qui, par exemple, vont être comme des petits frigos. Donc, c'est comme les fourmis pot de miel en Australie qui vont stocker de la nourriture avec leur corps.
Oui.
Et donc, pas comme une... Des fois, elles ont des petites chambres où elles vont stocker de la nourriture et des fois, c'est la fourmi elle-même qui stocke la nourriture.
Elles stockent au cas où ?
Au cas où, par exemple, pour l'hiver déjà, puisque souvent, à l'hiver, les fourmis ne récoltent plus. Et puis, pour des pénuries de nourriture, en cas où.
Donc, 10% des fourmis s'occupent d'aller chercher la nourriture.
Voilà.
Qu'est-ce qu'elles mangent ?
Alors, chez les fourmis, ça va dépendre de l'espèce. Donc, on va aller sur des fourmis qui sont, par exemple, pratiquement entièrement carnivores jusqu'à des fourmis qui vont se nourrir plus à base de plantes, par exemple. Donc ça dépend vraiment de l'espèce. Ensuite, au sein même de la colonie, il va y avoir des différences entre les individus. Les larves, les jeunes fourmis, elles se nourrissent surtout de protéines, alors que les adultes, eux, vont plus chercher des sources de nourriture sucrées parce qu'elles ont besoin plus d'énergie, en fait, de nourriture énergétique plus que de protéines, puisqu'il n'y a plus de croissance en fait chez l'adulte.
Alors à propos de nutrition, vous avez fait aussi des découvertes chez les fourmis qui pourraient peut-être avoir des répercussions chez les humains à propos justement de la nourriture hyperprotéinée.
Oui, voilà. Donc on a fait une expérience où on a testé plusieurs types de régimes alimentaires allant de hyper sucré à hyperprotéiné. Et on s'est aperçu que lorsqu'une colonie a juste une nourriture qui est hyperprotéinée, donc dans notre cas c'était 75% quand même de protéines, on perdait plus des deux tiers de la colonie en 6 semaines. Donc cette expérience avait été réalisée aussi chez les drosophiles.
Oui. Et ils donc ont les mouches.
Voilà, les mouches. Et ils ont montré des résultats identiques, c'est-à-dire que la durée de vie de la mouche était diminuée de 10 fois. Et récemment, chez la souris, ils ont commencé à mettre en évidence des systèmes similaires.
Donc de là à tirer des conclusions hâtives, bon, on ne peut pas en tirer de véritables conclusions pour nous les hommes, mais quand même.
Oui, quand même, surtout à l'ère de la mode des régimes hyperprotéinés, on peut se poser des questions en effet.
Alors vous avez dit aussi que vous avez proposé à certaines fourmis des régimes hypersucrés. Oui. Avec quelles conséquences ?
Alors les régimes hypersucrés n'affectent pas vraiment les fourmis. Du tout. Par contre, ça va pas plaire du tout aux larves, puisque les larves, elles, ont besoin de protéines. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que pour des régimes hyper sucrés, la production de larves est amoindrie.
Ça vit combien de temps une fourmi ?
Alors ça dépend aussi. Sur le terrain, ça vit pas très longtemps. Ça vit, par exemple, la fourmi des jardins vit en moyenne 2 mois, et en laboratoire, elle peut vivre jusqu'à 1 an. Et après, ça dépend. La reine, par exemple. Oui. En laboratoire, peut vivre jusqu'à 25 ans.
25 ans ?
Oui.
Donc, il y a beaucoup de parallèles entre les abeilles domestiques et les fourmis ?
Oui, oui, c'est des systèmes, des insectes sociaux. Donc, elles ont des organisations qui sont très similaires, avec un système de fourrageur, de division du travail. C'est le même système.
Mais mieux vaut être une femelle qu'un mâle chez les fourmis ?
Oui, comme chez les abeilles.
Et vous nous direz pourquoi dans un instant. On écoute Anne Brun. Et coupe.
Tout s'explique de 14h à 15h, Fabienne Chauvière.
Les loutres or, est-ce qu'elle est là?
France Inter, il est 14h28 et bienvenue dans le monde des fourmis avec Audrey Dussutour, chercheuse CNRS au laboratoire de l'université Paul Sabatier à Toulouse. Audrey Dussutour, que font les mâles fourmis ?
Les mâles fourmis...
Et ça vous fait rire.
Oui,
c'est pas drôle pourtant.
Parce qu'ils ont un destin plutôt tragique, les mâles des fourmis. Ils servent à la reproduction, mais après ça... Ils disparaissent.
Mais que deviennent-ils ?
Que leur arrive-t-il ? Oui. Donc, chez les fourmis, la plupart du temps, après l'accouplement, le mâle meurt, malheureusement.
Tout simplement. Mais il meurt comment ? À cause de quoi ?
Alors, il y a beaucoup d'espèces parce que l'appareil reproducteur reste attaché à la femelle et donc est arraché. et du coup, il ne survit pas. Chez les abeilles, par exemple, les abeilles ne laissent pas rentrer la ruche, tout simplement. Donc, ils meurent de faim.
Une reine peut pondre combien d'œufs ?
Ça peut aller jusqu'à...
C'est énorme.
Oui, les fourmis, par exemple, les fourmis légionnaires, elles peuvent pondre plus de 1000 œufs par jour facilement.
Et les reines fourmis, c'est comme les abeilles, elles sont fécondées une fois et ensuite elles ne sortent plus ?
Oui, c'est ça. Elles peuvent être fécondées par plusieurs mâles, mais lorsque normalement elles commencent à... Oui, de nombreux mâles, ça peut aller jusqu'à une dizaine facile. Et une fois qu'elles ont commencé à fonder leur colonie, non, elles ne revoient plus de mâles.
Donc ensuite elles pondent.
Voilà, elles se mettent à pondre, les premières ouvrières émergent. Elles sont toutes petites la plupart du temps, puisque la reine n'a pas su bien les nourrir. Et c'est elles qui vont prendre en charge après
les
soin.
Les suivantes.
Voilà, et puis comme ça, la colonie va se développer. Ça prend à peu près, par exemple, chez la famille des jardins, après 5 ans.
Donc, nourriture hyperprotéinée pour les larves.
Voilà, et nourriture hypersucrée pour les adultes. Alors, comment ça marche?
Oui.
C'est-à-dire que l'adulte doit savoir que les larves veulent les protéines. Donc nous, on a fait des expériences justement pour voir si on donnait un choix à des colonies avec ou sans larves. Donc on avait enlevé les larves à certaines colonies, voir les choix qu'elles faisaient en termes de nourriture. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que s'il y a beaucoup de larves dans la colonie, les fourrageurs vont tendance à ramener beaucoup plus de protéines que s'il n'y a pas de larves dans la colonie. Donc il y a bien un signal entre la larve et le fourrageur. Et la deuxième chose qu'on s'est aperçu, c'est qu'en présence des larves, la mortalité due au régime hyperprotéiné était un peu plus limitée. C'est-à-dire que les larves permettaient d'améliorer la survie des fourmis. Parce que chez les fourmis, les adultes ne savent pas digérer les protéines. Il leur manque des enzymes que les larves ont.
Alors justement, vous allez nous expliquer comment on digère quand on est fourmi. On n'a pas un système digestif pour soi-même.
C'est ça. On appelle ça plutôt comme une digestion qui serait collective. Donc en fait, les larves sont un peu comme des estomacs portatifs. C'est-à-dire que les fourmis vont amener la nourriture, la donner aux larves. La larve va la digérer, puis va la régurgiter aux adultes. Et donc toutes les fourmis vont se régurgiter plus ou moins la nourriture. Puisque, comme je vous ai dit, il n'y a que 10% des fourmis qui ramènent de la nourriture. Pour se partager la nourriture, elles se régurgitent d'une à l'autre, comme ça.
Alors, trafic, nutrition, et puis autre source d'émerveillement pour les scientifiques, la communication des fourmis.
Oui, donc il y a la principale communication que, pour ma part, j'ai étudiée, c'est la communication chimique, c'est-à-dire les
fameuses phéromones.
Voilà, et surtout les phéromones de piste, donc qui sont plus liées à tout ce qui est exploration du territoire et recrutement alimentaire. Et donc, à ce niveau-là, on s'est aperçu que les fourmis n'utilisaient pas qu'une seule phéromone, mais elles pouvaient en utiliser plusieurs. Et ceci peut s'avérer très important lorsque l'environnement ou une nourriture change. C'est-à-dire que lorsqu'une source de nourriture disparaît ou réapparaît dans l'environnement.
Donc, elles ont à leur disposition deux signaux chimiques, c'est ça ce que ça veut dire ?
Oui. En bref, oui, c'est par exemple, dans le système que j'ai étudié, qui est une fourmi australienne, elle va utiliser une phéromone qui va être, dont la durée va être très longue, elle ne va pas s'évaporer très vite. Et une phéromone, par contre, qui va s'évaporer très vite. Donc celle-ci, celle qui s'évapore vite, est très attractive et elle va attirer les fourmis directement à la nourriture. L'autre, qui est une phéromone qu'on appelle d'exploration, va plutôt quadriller le territoire.
Qu'est-ce qu'elle se raconte avec les phéromones ?
Il y a du manger. Non, c'est plus...
Par ici, la bonne soupe.
Voilà, où est la source, puisqu'en fait, c'est aussi un signal d'orientation, quelque part, puisqu'elles ont juste à suivre la phéromone et puis elles arriveront à la source de nourriture. Bien sûr, il existe d'autres types de phéromones, comme les phéromones d'alarme, qui par leur nom l'indiquent, c'est en situation de danger. Il y a une petite phéromone, par contre là, qui a une durée de vie très, très courte. Et puis, il y a...
Alors, elles disent quoi ? Danger, danger, il y a un être humain qui veut nous attaquer.
Voilà,
danger, danger, il y a une autre fourmilière qui s'approche.
Exactement. Donc, ça va être plus un signal très rapide. Après, vous avez des signaux qui vont être tactiles, donc là, qui vont être vraiment au niveau local. Et ça va permettre d'adapter en fait le fourragement, que le fourragement soit meilleur. C'est-à-dire qu'une piste, c'est bien, mais le problème, c'est que par exemple, si vous regardez chez les fourmis champignonistes, par exemple, leur piste, la durée d'évaporation, c'est 3 heures.
Oui, c'est assez long.
C'est assez long. Alors imaginez que la source de nourriture pour laquelle elle fourageait, elle disparaît. Parce qu'un humain est passé par là, enlevé. Comment se dire que la nourriture n'y est plus ?
Alors,
et donc en fait, elles sont des contacts tactiles. Les fourmis sur la piste vont être stimulées par des fourmis qui récoltent de la nourriture. C'est ce qu'on appelle un système de facilitation sociale. C'est comme si vous alliez dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui a une glace, vous en voyez un deuxième qui a une glace, la probabilité que vous achetiez une glace augmente.
Eh oui.
Et chez les fourmis, c'est un peu pareil. Lorsqu'elles voient un congénère amener une feuille, un deuxième congénère amener une feuille, un troisième congénère, la probabilité qu'elles ramènent même une feuille est grande. Par contre, si elles voient que des fourmis qui reviennent à vide, la plupart du temps, elle n'ira pas couper une morceau de feuille. Du coup, le recrutement s'arrêtera.
Est-ce qu'elles peuvent communiquer avec leurs antennes ?
Alors en fait, la communication avec les antennes, c'est plus quelque chose d'une reconnaissance. Est-ce que tu es de ma colonie ? Oui, tu es de ma colonie. C'est plus un type de communication comme ça. Elles perçoivent leur hydrocarbure cuticulaire, leur odeur en fait. Et donc quand elles se touchent avec les antennes comme ça, c'est plus pour se dire, toi tu viens de ma colonie.
Elles se rassurent.
Voilà.
Et si deux fourmis qui sont issues de deux colonies différentes se rencontrent, qu'est-ce qui se passe ?
Alors si on est les fourmis d'Argentine, ça va bien se passer. Mais dans la plupart des cas, ça se passe très mal.
C'est la castagne ?
Voilà. Et ou bien, ça va être... Il y en a qui... Ou ces façons de se... Par exemple, il y a des fourmis en Australie qui ne se battent pas quand elles se rencontrent, mais elles se montrent leur force. Qu'elles ont des postures comme ça. Puis il y a toujours une colonie qui finit par dire « Bon, ils ont l'air plus forts que moi. »
Elles ont chacune leur territoire.
Voilà. Bon, les fourmis sont en général très territoriales.
Et un territoire, ça peut être grand ?
Ah oui, par exemple, il y a une fourmi, la fourmi des bois, qu'on connaît bien au Jura ou au Japon, qui peuvent avoir, ça, c'est sur des hectares et des hectares, ce qu'on appelle des super colonies. C'est-à-dire qu'on a un nid mère qui garde contact avec tous les nids filles. Et donc, par exemple, au Japon, il y a une colonie qui fait 300 millions d'individus répartis en 40 000 nids différents sur des hectares et des hectares.
Mais on considère que c'est la même colonie.
C'est la même colonie parce que c'est le même nid mère au départ.
Et
ils communiquent, les nids, entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des échanges de nourriture,
ah oui,
des échanges
de larves,
etc. Oui. C'est
vraiment fascinant.
Ce qu'on appelle des super colonies.
Il paraît qu'en Australie, on trouve les plus vieilles espèces de fourmis.
Oui, c'est une fourmi qui ne sort que la nuit, donc qui a été très très difficile à observer pour les chercheurs, puisqu'il y a eu une fois quelqu'un qui l'a mentionné dans une publication, mais chaque fois que les chercheurs retournent en Australie, ils ne la trouvaient pas. Ils ont cherché. Puis en fait, c'est parce qu'elle fourrage que la nuit, donc elle sort que la nuit.
Et pourquoi est-ce qu'il y a des fourmis qui piquent ? Qu'est-ce qu'elles cherchent quand elles nous mordent ?
Pourquoi il y a des fourmis qui piquent ? Originellement, dans l'évolution, je ne sais pas si vous savez, mais les fourmis et les guêpes sont assez proches. Donc, la fourmi ancestrale, entre guillemets, avait un aiguillon.
Ah, donc normalement,
les abeilles, comme les guêpes, avaient un dard. Et puis, certaines l'ont perdu au cours de l'évolution. Mais en Australie, où justement on trouve les fourmis les plus anciennes, la plupart piquent et ça fait très mal.
Eh oui. Et elles piquent pour se défendre ?
Oui, voilà, pour se défendre.
Tout
et
simplement.
Pour attraper, ou sinon, pour paralyser leur proie.
Alors, au début de l'émission, vous parliez des plus vieilles fourmis. Nous, dans cette émission, on a les plus vieux sons de la radio.
Il est possible actuellement de suspendre la vie et on peut imaginer, par exemple, envisager une immortalité par le froid.
L'immortalité par le froid, c'était dans les années 50. Bonjour Florence.
Bonjour,
D'Artois. Florence D'Artois de Lina. Au cas où vous ne le sauriez pas, Audrey Dussutour. Donc je vous présente une chercheuse en fourmis, Florence D'Artois. Alors aujourd'hui, on continue toujours à explorer le futur de nos aïeux.
Voilà, et le nôtre aussi aujourd'hui.
Oui, voilà. Et il y a plus de 50 ans déjà, on parlait de cryogénisation. Alors là, on a entendu Jean Rostand, votre chouchou,
chérie. Voilà, oui. Tous les ans, on passe un petit bout. Alors là, c'est très court, mais voilà, c'est mon petit chouchou.
Bah, Jean Rostand, c'était le fils d'Edmond Rostand.
Ouais. Ouais, un grand biologiste qui nous a quittés en 1977. Et c'est vraiment un visionnaire. Donc tous les ans, j'aime bien lui rendre un petit hommage. Donc là, c'était l'occasion. Et je pense que le sujet du jour va intéresser les fourmis, parce que le grand rêve de tout le monde, des fourmis et peut-être des humains aussi, c'est l'immortalité,
la
c'est
vie éternelle.
Survivre, voilà, la vie éternelle. Bon, est-ce que c'est vraiment un bien ? On ne sait pas. Mais beaucoup de monde réfléchit à ce sujet.
Et qu'avez-vous retrouvé ? Vous avez retrouvé une émission un peu plus récente que toutes les émissions qu'on a pu entendre depuis le début de cette série.
Oui, alors un peu plus récente, mais bon, en même temps, ça fait quand même un certain nombre d'années, puisqu'elle date du 26 octobre 1980, donc ça fait combien tout ça ?
29 ans,
voilà. Et c'est une émission...
Quand je disais niveau de classe de 3e la semaine
vrai.
Dernière,
j'étais
j'aurais dû dire...
J'étais très mauvaise en maths, ça continue. Et donc, cette émission... est amusante quand même parce qu'elle a beaucoup vieilli par rapport à certaines émissions qu'on écoute qui sont des années 50 ou 60. Celle-là, bon, le mixage, tout ça, vous allez entendre, est un daté.
Ça date son époque. Alors, c'était une émission de Jacques Pradel.
Exactement, parce que Jacques Pradel, il faut le savoir, a commencé sa carrière à la radio. Il est arrivé en 69 à l'ORTF. Et puis, dès 73, il était arrivé à France Inter. Et peut-être que vous vous rappelez, il avait fait une célèbre émission avec Françoise Dolto en 1976. Donc, il a fait des choses quand même intéressantes quand il était en radio. Et là, entre 1980 et 81, il a fait une série qui s'appelait Futura. Et le propos de l'émission, c'était de recevoir des chercheurs, des spécialistes, des scientifiques, et de voir à partir des innovations qu'on faisait à ce moment-là, comment on pourrait ensuite les utiliser dans le futur. Et ce jour-là, il s'intéresse à la, j'arrive jamais à le dire, donc je vais, à la cryogénisation.
Redites-le encore une fois, qu'on rigole.
Cryogénisation.
Et vous arrivez à dire
cryogénisation.
Mais bon, il y a comment qu'il y a un problème avec ça. Non, ça va pas du tout.
Donc c'était le 26 octobre 1980. On écoute Jacques Pradel.
Et oui, la vie qui vient du froid. Le froid, c'est peut-être la seule, la véritable machine à remonter le temps, ou tout au moins à l'arrêter pour aller voir un jour, dans un monde meilleur, ce qui s'y passe. Futura, effectivement, s'intéresse ce soir à la société Cryonix France, un groupe d'une vingtaine de personnes qui ont décidé de confier leur future dépouille mortelle au froid absolu et d'attendre dans un bain d'azote liquide que la science ait fait suffisamment de progrès pour les réveiller, pour les guérir peut-être et pour leur offrir enfin sur un plateau quelque chose qui ressemble fort à l'immortalité.
Nous sommes condamnés à la mort ou à l'optimisme. Si nous ne faisons rien, il est certain que nous mourrons physiquement et nous ne faisons pas d'hypothèse à ce moment-là ce qui se passe sur le plan spirituel. Aussi faible qu'elle soit, les chances d'une vie future n'existent que pour ceux qui, 15 secondes après l'arrêt de leur cœur, auront pris les précautions pour se faire figer dans l'étape biologique où elle se trouve. Un cryotorium n'est autre chose qu'une espèce de caveau qui peut être souterrain, à moitié souterrain. Nous rêvons à une grotte dans une montagne suisse pour être plus à l'abri des bombes atomiques. Bref, un cryotorium, c'est tout endroit qui contient des capsules cryogéniques.
Oh, les jingles, Florence. C'était très, très particulier. C'était en 1980.
Oui. Et la personne qu'on entendait, c'était M. Delinoff, qui était un ingénieur physicien donc, de la société, je ne sais pas si elle existe toujours, d'ailleurs, Cryonix France.
Nous, on a fait des petites recherches sur Internet. Mmh. C'est pas très clair.
Ça n'a pas dû avoir de succès, effectivement. Et lui-même n'était pas très motivé pour se faire congeler. Oui. C'est plus facile.
Et oui, parce que dans un extrait qu'on ne passe pas, ouais. Jacques Pradel lui demandait, vous, est-ce que vous feriez congeler? Il disait, non, sûrement pas. Et vous, est-ce que vous congelez les fourmis, Audrey Dussutour?
Non, seulement si on veut les tuer. Oui. On les met parfois au froid pour les rendre inactives, mais non.
Donc vous les mettez au froid pour les rendre inactives et après vous pouvez les réveiller?
Oui, sans problème. Par exemple, les rennes, on les met souvent au frigo pour qu'elles arrêtent de pondre pendant l'hiver, pour leur faire un peu un hiver virtuel, oui. Sinon elles se fatiguent. Donc oui, elles survivent très bien à 4 degrés.
À 4 degrés. Et après, non.
Non.
Congelé, non.
Non.
Alors, en 1984, Florence, il y a un médecin français du Maine-et-Loire, qui lui... Il croyait dur comme fer à la cryogénisation.
Il croyait à la cryobiologie vraiment énormément. Il avait surtout, il espérait qu'on pourrait guérir les maladies et donc dans le futur, en se réveillant, on pourrait être soigné. Malheureusement pour lui, il fait installer dans sa crypte, il avait un château, donc il fait installer
un congélateur.
Et malheureusement, en fait, c'est pas lui qui décède le premier, c'est son épouse, donc en 1984. Alors il décide de la congeler et ça a duré comme ça des années parce que lui-même en 2002, a essayé de se faire congeler aussi.
Oui, parce qu'enfin, il est mort en 2002.
Il est mort en 2002. Son fils donc a essayé de le faire congeler. J'arrive pas à dire cryogéniser. Et puis finalement, ça s'est terminé en 2006, je crois.
Ça s'est terminé en mars dernier.
Mars dernier, oui, voilà. Ouais. Il y a eu une panne. Il y a eu une panne de toute façon dans la crypte. Et le corps est passé de moins 80 à moins 20 degrés. Donc de toute façon, l'expérience était fichue. On les a incinérés. Martineau et son épouse.
Donc, mais on écoute. Écoute le docteur Martineau en 1984.
Voilà, le 26 juillet.
Vous pensez donc que dans un futur plus ou moins lointain, on pourra redonner une seconde vie à des cadavres?
Je pense que la science avance tous les jours. Maintenant, on fait des embryons congelés, après avoir congelé au début du siècle des spermatozoïdes et des ovules. Tout cela est passé dans le domaine courant. Et il est bien évident qu'il y a quelques dizaines d'années, les gens auraient souri s'ils avaient su qu'on fasse une chose pareille. J'ai pris un pari souvenir, je fais ça à titre privé. Je ne veux pas qu'on me fasse dire que j'ai découvert quelque chose, puisqu'en fait, je n'ai rien découvert, c'est quelque chose à venir. C'est un pari, c'est tout, ça s'arrête là. Je ne prétends pas avoir trouvé quoi que ce soit au point de vue de l'hibernation.
Pour répondre à votre préoccupation, Evry Djiri, sachez qu'une employée de maison vient régulièrement dans cette cave pour vérifier si l'électricité fonctionne bien. Le médecin avait obtenu une autorisation, devenue aujourd'hui caduque. Les autorités départementales souhaitent que le corps de cette femme soit inhumé, mais le professeur ne veut rien savoir.
Et donc voilà, la fin de cette histoire n'est pas drôle. Le congélateur est tombé en panne et ils ont été incinérés. Ça vous fait rire.
Non, ça me fait rire, mais non. Mais enfin, je suis triste pour eux parce que voilà, l'éternité ne leur est pas acquise, malheureusement.
Ben oui, mais peut-être l'ont-ils malgré tout. Ma chère Florence.
Peut-être, exactement.
Vous y croyez, vous, Audrey Dussutour, à la cryogénisation ?
Peut-être pas maintenant, mais pourquoi pas ? Ça ne me gênerait pas d'être cryogénisée.
Oui, c'est une expérience.
C'est extrêmement frustrant de ne pas savoir ce qui va se passer plus tard.
Florence, il paraît que vous avez une question sur les fourmis ?
Non.
Ça, bon ?
Je ne sais pas. Non. Non, peut-être que j'avais une question, mais je suis arrivée en cours d'émission sur les fourmis magnons là, d'Afrique qui sont très grosses et très méchantes. Est-ce qu'elles existent toujours ?
Oui, c'est celle justement dont on a mentionné qu'elles faisaient 20 millions, des populations de 20 millions. Et puis, c'est vraiment, elles sont fascinantes pour moi, pour le trafic. C'est les plus fascinantes fourmis, je crois.
Ouais. Merci beaucoup, Florence.
Merci, à lundi.
On écoute Raphaël Saadic. Si on pouvait rentrer dans une fourmilière, je connais un petit garçon qui veut être fourmi pour pouvoir rentrer dans la fourmilière et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on verrait ?
On verrait des longs couloirs très sombres, avec des chambres avec de la nourriture, des chambres avec des larves, la chambre de la reine sûrement aussi.
Elle ressemble à quoi cette chambre ?
C'est une petite chambre toute simple.
Oui.
C'est pas comme chez les termites où elle est hyper protégée dans une coque d'argile. Mais par contre, chez les fourmis, c'est vrai que la reine se trouve très souvent très profondément dans le nid. Donc quand on récolte, nous, nos fourmis à l'extérieur, avec nos pelles et nos pioches, on a beaucoup de mal à la trouver, la reine.
Est-ce qu'on pourrait retrouver leurs réserves, leurs greniers, leurs caves ?
Oui, quand on creuse, par exemple, quand on creuse des nids de fourmis, la plupart du temps, ce qu'on trouve à la surface, ça va être les cocons, parce qu'eux ont besoin d'être un peu plus au sec. Après, plus on va descendre, on va trouver des poches où il va y avoir de la nourriture, des ouvrières, et plus on descend, on va avoir des larves et tout au fond la reine.
Et en matière de nourriture, qu'est-ce qu'on peut retrouver ?
En matière de nourriture, on peut trouver, par exemple, chez les fourmis granivores, elles vont avoir des grands greniers à graines. Il va vraiment y avoir, c'est ce qui aide d'ailleurs à la dispersion des graines, donc c'est assez intéressant. Chez d'autres espèces, on peut retrouver quelques proies. Et puis, par exemple, chez les fourmis des jardins, on va peut-être retrouver quelques fois des pucerons. Qu'elles auront ramené au nid.
Elles élèvent pour le lait.
Le miel, on appelle ça le miel. C'est vrai que ça, on fait vraiment vite le parallèle avec nos vaches, à nous. Oui. Mais c'est un peu ça. En fait, elles récupèrent du miel là. Donc, elles vont protéger ces pucerons sur les plantes. C'est pour ça que souvent, les jardiniers ne sont pas très contents avec les fourmis. Parce que les pucerons, ce n'est pas quelque chose qu'ils voudraient garder sur leurs plantes. Mais les fourmis les protègent contre les coccinelles qui mangent les pucerons.
Ah oui, en fait, c'est tout un écosystème,
c'est
tout ça.
C'est ça. Après, elles les ramènent au nid s'il fait froid.
Elles les soignent s'ils sont malades ?
Peut-être pas jusque-là, mais non, c'est vrai, elles s'occupent vraiment de leur pucerons.
Mais on peut trouver de grosses proies dans un nid de fourmilière, dans un nid de fourmis ?
Plus grand que des fourmis, oui, mais pas d'énormes.
Des chenilles ?
Proies. Oui, alors les chenilles, elles vivent Certaines chenilles vivent carrément dans les colonies de fourmis parce qu'elles exploitent les fourmis. Elles donnent une substance aux fourmis qui n'est même pas vraiment nutritive, mais qui est vraiment addictive. Donc les fourmis ne peuvent plus s'en passer au bout d'un moment et donc nourrissent cette chenille pour avoir accès à cette substance, comme des drogués un petit peu. Et du coup, au bout d'un moment, la chenille se transforme en papillon et quittera le nid de la colonie.
J'ai une question qui est très jolie. Est-ce que les fourmis communiquent avec les cigales ? Vous séchez ?
Non, je ne pense pas. C'est dommage, mais non. La cigale et la fourmi, c'est...
On a beaucoup parlé des phéromones dans cette émission. Ça a une odeur, les phéromones. Est-ce que nous, humains, pouvons sentir cette odeur ?
La phéromone d'alarme, oui. On peut la sentir. La phéromone de piste, non. Mais par exemple, on peut sentir l'acide formique qu'elles balancent quand elles ne sont pas très contentes. Surtout la fourmi des jardins, vous pouvez essayer... un peu secouer le nid et vous verrez, ça sent le vinaigre extrêmement fort.
Donc on peut les sentir effectivement. Merci beaucoup Audrey Dussutour. Donc vous allez retourner dans votre laboratoire CNRS de l'Université Paul Sabatier à Toulouse et vous allez chercher quoi maintenant ? Qu'est-ce qu'on ne sait pas sur les fourmis ?
On ne sait pas plein de choses. Il y a beaucoup de questions qui restent encore ouvertes. Bon, moi je vais continuer à étudier la nutrition puisqu'on ne sait pas du tout comment la larve communique avec... les ouvrières, on n'a aucune idée si c'est chimique, si c'est... On ne sait pas comment la larve dit qu'elle a faim, par exemple. Donc ça, c'est un de mes projets de recherche. Je vais continuer à étudier le trafic aussi. Et puis, je travaille aussi sur des organismes unicellulaires, maintenant, qu'on appelle des amibes sociales. Donc c'est...
C'est un autre sujet, mais quel est le rapport entre ces organismes unicellulaires et les fourmis ?
En fait, quand on travaille sur le collectif, on peut aller sur les trucs compliqués comme les hommes, mais on peut aussi descendre très très simple chez les unicellulaires, parce qu'ils font des choses absolument hallucinantes.
Et donc, on a retrouvé des organismes, une seule cellule, grande comme plusieurs mains.
C'est ça. Oui. C'est ça. C'est l'espèce sur laquelle je travaille qui peut résoudre des problèmes de labyrinthe, par exemple. Si vous les mettez dans un labyrinthe, ils vont trouver le chemin le plus court. Moi, je les étudie en nutrition et donc je leur propose, par exemple, un choix très complexe au niveau de nourriture et ils trouvent toujours la bonne nourriture, par exemple. C'est vraiment impressionnant. Et donc, c'est des cellules qui peuvent faire facilement 1 mètre carré.
Ah oui, carrément.
Oui.
Audrey Dussutour, de l'Université Paul Sabatier à Toulouse. Et vous allez recevoir un prix dans quelques jours, en fait, à l'occasion de la 31e conférence internationale d'éthologie. Vous remportez un prix qui couronne une jeune chercheuse de moins de 35 ans.
C'est ça.
Voilà, pour vos travaux.
Pour mes travaux.
Sur les fourmis ?
Oui, principalement. Oui.
Sur la nutrition
et le trafic.
Alors, à propos de nutrition, Audrey Dussutour, savez-vous quel sel choisir quand vous faites la cuisine ?
J'aime le sel de l'île de Ré, moi. C'est celui-là que je préfère.
Ah, alors pourquoi préférez-vous ce sel-là ? Peut-être qu'Hervétis va vous donner des pistes. Faut-il dépenser des fortunes pour acheter du sel de l'Himalaya, par exemple ? Eh bien, on poursuit avec notre super chimiste Hervétis l'exploration des placards de la cuisine. Le thème de la chronique du jour, vous l'avez compris, c'est le sel.
Ah, le sel, les sels. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, on voit vendre des sels de l'Himalaya, qui sont les mêmes. Une fortune. Alors que c'est des sels pas purifiés, quoi. On se fout du peuple, hein. On nous dis pas tout. Non, non, mais sérieusement. Sérieusement, ça donne de la saveur, hein, d'avoir des ions fer correctement dosés, etc. Mais vous prenez ce bloc, vous le broyez, vous avez un sel, pas de l'Himalaya, mais de Lorraine. Pourquoi est-ce qu'on ne vend pas des beaux sels de Lorraine? Alors, ça, c'est, il y a la molécule, les composés du sel, chlorure de sodium, qui donnent la saveur salée, c'est un fait. Il n'y a pas que ça dans le sel. Il faut bien penser que le sel, c'est aussi associé à une texture. Par exemple, il y a un sel qui s'appelle le sel de Maldon, qui vient d'Angleterre. C'est des petites plaquettes. Ça donne un croustillant tout à fait particulier. Mm-hmm. Vous pouvez, alors, ça coûte cher, mais dans votre cuisine, vous pouvez faire un sel de poêle. C'est-à-dire, vous prenez du sel, vous le dissolvez dans l'eau, vous le faites chauffer dans une poêle. Si vous y prenez bien, vous trouverez ça sur Internet, sel de poêle. Vous avez un croquant très particulier. Puis, vous n'oubliez pas qu'il y a la fleur de sel.
Et, ben oui.
Et la fleur de sel, elle a un croquant encore particulier. Mais alors, à ce moment-là, ne perdons pas le croquant en le dissolvant dans l'eau, parce que sinon, ça ne sert plus à rien. Une fois dissous dans l'eau, et nous avons fait les études des tests triangulaires, on ne reconnaît plus un sel fleur de sel d'un sel pas fleur de sel, parce qu'il reste le chlorure de sodium.
Mais j'ai une autre question, Hervé. Est-ce qu'il y a une différence entre le sel de carrière et le sel de mer?
Alors oui, il y a des différences, parce qu'il n'y a pas... Si vous avez du chlorure de sodium, c'est le chlorure de sodium. Mais il y a tout ce qui va avec. En particulier, le sel gris non raffiné, qu'il vienne du bord de l'Atlantique ou pas, il contient d'autres sels, avec un S. En particulier, le chlorure de calcium, qui lui est très amer.
Quand ils ne sont pas purs, les sels ont d'autres goûts.
Que le goût salé, oui, absolument. En revanche, sans doute, dans les produits alimentaires, on nous met du sel, chlorure de sodium, c'est celui qui coûte le moins cher.
Au lac de Com, l'autre mardi gras, j'allais faire un tour en cabine. J'allais faire un tour dans le petit bois. Tâter l'âme sœur qu'on devine dans la foule romaine. Il y a foule à Rome dans la foule.
Ah, la voix de Jean-Louis Murat, moi, ça me donne toujours des frissons. Tout s'explique, c'est presque terminé pour aujourd'hui, c'est presque terminé pour cette semaine. On se retrouve lundi et lundi nous parlerons des vols habités avec Hugues Laporte-Vevada qui est directeur technique adjoint d'Astrium. Bonjour Hugues Laporte.
Bonjour.
Donc je vous attends lundi et vous nous parlerez donc des vols habités et éventuellement des croisières spatiales.
Oui, tout à fait. Nous allons d'abord parler de l'exploration de l'espace par des professionnels, par les astronautes qui vont en orbite et qui iront plus loin vers la Lune, vers Mars.
Et vers Mars.
Et puis...
Et on racontera tout ça. Et on racontera tout ça lundi. On vous fera écouter notamment une archive de 1947 qui va sûrement beaucoup vous intéresser à lundi. Très bon week-end à tous. Vous penserez peut-être aux fourmis si vous êtes sur la route pour ce week-end du 15 août. À la technique, Julien Chabassu et Gilles Gaillard. À la réalisation, Benjamin Riquet.
Du 19 au 23 août, sur l'île de Tatiou, à Saint-Vallaougue, la Manche vous offre un voyage musical au-delà des mers. Une 15e édition avec 11 ensembles musicaux venus du Québec, d'Irlande, d'Écosse, d'Espagne, de Suède. Le Festival des Traversées Tatiou, une initiative du département de la Manche. Renseignements 02 33 05 95 88.
Vous voulez devenir plus riche que riche ? Ah bon? Alors vendredi, Euromillion met en jeu près de 57 millions d'euros. 57 millions! Heureusement, ma petite machine les compte à ma place.
Ah! Doit y avoir un petit million qui bloque là. Aïe, aïe, aïe.
Estimation non garantie des gains à partager au rang 1, voire règlement.
Euromillion!
Il n'y a que Euromillion pour gagner autant de millions.
Française des Jeux.
Et merci aussi à Céline Bézi qui prépare cette émission avec beaucoup d'attention tous les jours. Mathieu Wagner est notre stagiaire. À la programmation musicale, il y a Jean-Michel Montu. Voilà, j'ai cité tout le monde. Vous écoutez France Inter, il est 15h.